Depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange. Tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes.
Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc, mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Fréquence féministe.
Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Bienvenue dans Fréquence féministe, c'est déjà le troisième épisode de votre quotidienne qui couvre le festival Amiens Europe Féministe Future. Aujourd'hui, avec moi, il y a Julien. Salut.
Bonjour.
Et Léo.
Bonjour.
Et oui, nous fait de l'ASMR.
On continue sur le Fréquence féministe.
C'est parfait. Je vois que vous l'avez bien dans la peau, c'est excellent. Pour cette troisième émission, du coup, ce n'est plus Léo à l'animation. Voilà, il rend son tablier. Non, je blague, il reviendra après-demain, du coup, pour la dernière. Aujourd'hui, on va parler d'une exposition qui s'appelle Mouvementement. Et Julien, du coup, tu es allé à la rencontre des étudiants et étudiantes du Master Arts Plastiques à l'Université de Picardie Jules Verne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ?
Exactement, en fait, on a une exposition qui se tient à la Maison de la Culture, mais aussi à la Galerie Totem, qui est au niveau de la cathédrale. Et c'est une exposition qui porte le nom de Mouvementement, qui est aussi l'ouvrage d'Emma Biget, qui est donc une philosophe et danseuse, qui est l'artiste associée à ce projet pour les masters 1 et 2 en art plastique à l'Université Picardie Jules Verne. Et leur projet, c'était donc de partir de cette œuvre, de ces réflexions philosophiques, et de créer des œuvres, tout simplement. Et j'ai pu rencontrer notamment deux étudiantes qui suivent le parcours, qui sont en Master 2, qui ont pu proposer leurs œuvres dans l'exposition.
Eh ben avant qu'on s'écoute cette interview que tu as faite avec les étudiants et étudiantes, je propose que Léo, tu nous expliques peut-être un peu cet ouvrage, parce que je sais que tu as fait quelques petites recherches autour du livre d'Emma Biget.
Oui, exactement. Déjà, tout d'abord, c'est Mouvementement éco-politique de la danse, donc sorti en 2023. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça propose une réflexion puissante et intéressante en philosophie de danse sur les ponts entre pratiques dissidentes du mouvement et activisme écologique. Donc c'est en fait ce livre, il est nourri par la pensée queer et on va dire que Emma Biget, elle éclaire la possibilité d'inventer des mondes élargis et d'autres types de relations. Donc on se rend pas, en fait, dans ce livre, on se rend pas forcément compte de tous les mouvements qu'on réalise au quotidien. Et c'est justement ce que Emma Biget, en fait, elle propose dans son essai. Ça montre la manière dont certaines formes de danse tentent de mettre en place des, on va dire ça entre guillemets, des antidotes à l'anesthésie. Au final, en fait, on se rend compte que la danse, elle pourrait bien avoir à jouer un rôle crucial dans les luttes écologiques, parce que pour se rendre capable de danser, il faut s'éveiller en fait, à tous les mouvements qui nous bougent et sans qu'ils soient agis par notre volonté. Donc là, par exemple, je dis ça, la respiration, ça peut être le flux du sang, les mouvements inconscients des yeux, la paupière qui bouge, l'attraction de la terre, la croissance et le pourrissement aussi des végétaux et l'intervention des animaux. Donc en fait, plein de questions. En tout cas, je vous invite à découvrir ce livre qui porte sur plusieurs réflexions.
Eh bien, maintenant, c'est le moment de s'écouter l'interview de ces étudiants et étudiantes qui ont accepté de répondre à tes questions, Julien.
Tu vois, là j'ai un peu de mémoire. Il m'a dit, ok, après, donc là il est rentré au bled, il est rentré au bled, et moi, finalement, je suis revenu en France. Après, avec tout ça, je retourne chez Rocamat, j'étais encore célibataire.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec deux étudiantes de l'UFR des Arts d'Amiens qui sont en spécialité art plastique et elles participent à une exposition qui s'appelle Mouvementement en référence au livre de la philosophe et autrice Emma Biget.
C'est ça.
Donc en ce moment, dans le cadre du Féministe Future Festival, on a une exposition qui se tient à la fois à la Maison de la Culture d'Amiens et puis
à la Galerie Totem.
Exactement, à la galerie Totem.
Qui est sur le parvis de la cathédrale.
Première question, comment est venu ce projet ? Comment vous avez commencé à travailler dessus ? Donc c'est vos enseignants qui vous ont imposé le thème ? Comment ça s'est fait ?
Ouais, c'est ça. En gros, tous les ans, en Master 1 et Master 2, c'est pareil. On a un livre toute l'année et on travaille dessus. L'année dernière, on avait deux expositions. C'était sur un livre de Samir Boumediene et là, c'est cette année sur Emma Biget. Et du coup, on fait une exposition bisite, cette fois, pas en deux fois comme l'année dernière. Et on travaille toute l'année sur ce sujet du livre. Et on doit faire un travail plastique aussi dessus. On prend ce qu'on veut du livre et on fait un travail à partir de ça.
Et toutes les œuvres, donc pour l'avoir visité, toutes les œuvres sont vraiment différentes. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mis à part la couleur bleue qui revient à plusieurs moments. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de chacune de ce que vous avez présenté comme œuvre, ce qu'on peut voir ?
Alors du coup, juste pour remettre un peu de contexte, donc chacun part du livre et se l'approprie et donc doit le mettre en lien avec sa propre pratique personnelle. Donc moi, mon travail, c'est Trajectoire domestique qui se trouve à la Galerie Totem. C'est cinq plaques d'acrylique transparente qui, donc sur chaque plaque, on retrouve un parcours d'insectes qui est à mon domicile ou qui a été. Et en fait, je les filme pendant une certaine durée. Donc un cloporte, ça va être beaucoup plus court qu'une araignée qui va durer des heures. Je projette les vidéos et je retrace en fait le parcours sur la plaque. Et donc elles sont mises les unes devant les autres pour tout simplement qu'on puisse les voir, enfin voir la place qu'ils prennent dans mon appartement et les voir en même temps individuellement.
Et moi, du coup, je suis à la MCA, donc dans Giacometti, et j'ai fait l'installation qui est tout au fond de la pièce où c'est une table, enfin un bureau d'enfant qui est entrouvert. Enfin, il y a un petit, je sais pas comment expliquer, un coffre à l'intérieur de la table qui se soulève et c'est entrouvert. Et à l'intérieur, on voit éclairé par une petite lumière qui vient d'en dessous un dessin que j'avais fait quand j'étais enfant. Que j'ai retravaillé avec des images que j'ai trouvées sur internet en libre service. Et du coup, le rapport avec le livre, c'est Emma Biget qui dit « Il y a des mouvements en moi qui ne sont pas de moi ». Et du coup, j'ai voulu parler de cet enfermement qu'on vit à l'école. L'école, parce que c'est... on passe tous par là, mais ça peut être aussi autre chose. Enfin, l'apprentissage de la vie quand on est enfant. Quand on est enfant, on a un monde en nous qui est bien plus riche que ce qu'on peut avoir à l'école en restant assis sur une table et sans pouvoir bouger. Et du coup, voilà, j'ai voulu parler de ça.
Et dans...
C'est le monde à l'intérieur de la table qui est installé. Voilà.
Justement, dans la notice, vous parliez de cette droiture, enfin cette posture qu'on vous oblige à adopter. Et là, il y a vraiment cette idée du mouvement, parce que au final, Emma Biget est aussi danseuse.
Ouais,
du coup, il y a vraiment cette importance du mouvement. Parce qu'elle parle d'éco-mouvement, c'est ça le terme ?
Ouais, éco-politique de la danse, ouais. Okay. C'est le terme qu'elle utilise le plus.
Et ça se traduit comment ? Enfin,
c'est compliqué à expliquer, c'est assez conceptuel. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément eu le temps encore de lire le livre. On feuillette, on a par exemple un cours, on a un séminaire avec des profs où on nous donne des passages qu'on étudie ensemble, on en discute, mais on n'a pas tous eu accès vraiment au livre encore. Je sais pas toi si t'as...
Pas tout.
Mais ouais, c'est la question de l'humain dans son mouvement et son mouvement dans le sens sa façon d'être au monde, et du coup ça passe forcément par le mouvement et puis
le corps en général.
Oui, je voulais dire le corps en général, c'est-à-dire que comment on se sent dans notre corps, comment on est aussi par rapport au reste du monde finalement.
Dans ce rapport au corps et à l'espace, justement, comment vous avez construit l'espace architectural, si on peut dire, de cette exposition? Est-ce que vous avez donc visité le lieu d'abord, ou comment l'espace, en fait, tout simplement, comment c'est choisi? Je vais mettre mon œuvre ici, les autres ici, moi je vais la suspendre. Comment vous avez imaginé cet espace collectivement, du coup?
En fait, les lieux, on les connaît en général quand on est en master, parce qu'en licence, on a l'occasion d'aller voir des expositions. Et nous, c'est la deuxième année aussi qu'on expose. Donc on connaît le lieu. Après, en fonction de chaque travaux, chacun est libre de choisir un endroit. Et après, c'est un échange de... c'est des compromis, quoi. chacun donne une idée de l'endroit où il aimerait accrocher. Et si c'est possible, on le fait, mais en fonction de ce qu'il y a autour et tout, pour qu'il y ait quand même une cohérence dans l'exposition.
Ouais, et en plus, du coup, comme je disais tout à l'heure, là, on est sur les deux sites en même temps, alors que l'année dernière, par exemple, on avait une exposition, on était 30 personnes au même endroit. Et du coup, là, cette année, ce qui est bien, c'est qu'on a... Et en plus, ça va bien avec le thème du livre, c'est qu'on a beaucoup plus d'espace, on est moins serrés les uns avec les autres. Donc, c'est ça qui est cool cette année, je trouve, par rapport à l'année dernière. On a vraiment pu plus prendre en compte l'espace, quoi, et moins tout accumuler. Il y a plus, on peut plus se mouvementer dans l'exposition. Donc, ça, c'est bien.
Et comment, combien de temps, en fait, ça prend de construire une exposition comme celle-ci?
Là, du coup, c'est dès la rentrée, les profs nous donnent le sujet du livre, et après, on a de septembre, fin septembre à décembre, pour commencer à faire notre projet, en discuter tous ensemble. Toutes les semaines, on se voyait avec tous les étudiants, et voilà.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de croiser son travail à d'autres moments, que ce soit son travail artistique ou lors de conférences, par exemple?
Donc, on l'a rencontré lors d'une conférence à la fac de droit. Donc, c'était il y a déjà quelques mois. Et donc, c'était une conférence, c'était pas une conférence sieste, enfin, je ne pense pas. Mais par contre, on avait une espèce de méditation qui a été amenée par Emma Biget.
On pouvait aussi s'asseoir sur scène avec elle, enfin, sur scène, sur là où elle était pour parler. Il y en avait plein qui sont allés s'asseoir avec elle. Et du coup, il y avait un peu ce truc de discussion ensemble et aussi avec le public. Mais elle voulait vraiment que ça ne soit pas une conférence où il n'y ait que elle qui soit au milieu. Et ouais, du coup, c'était intéressant. Il y avait une vidéo qui était projetée aussi en même temps. Une vidéo de pieds vus d'en dessous, si je ne me trompe pas, qui est sur une plaque et on voyait ses pieds. Et du coup, ça rappelait forcément le sujet du livre. Et puis
la danse en général.
Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du care, du coup, dans ce qu'elle propose, de prendre soin de soi entre les uns et les autres, les unes les autres, mais aussi entre nous et l'espace, et comment on habite l'espace.
Oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'elle ne veut pas trop hiérarchiser, en fait, le public et elle-même. Et là, on avait vraiment... Enfin, on pouvait tous et toutes aller sur... Enfin, c'est pas vraiment une scène, mais...
devant. C'était un amphi avec... Enfin, elle était au milieu, en bas, là où les profs sont, du coup, d'habitude, mais... Et aussi, du coup, ça me fait penser que la vidéo qu'elle projetait, du coup, on voyait des pieds vus d'en dessous, c'est... elle appelle ça une danse, une micro-danse, je sais plus comment elle appelait ça exactement, mais c'est quand elle nous a fait faire une méditation, en fait, on devait se mettre debout et relâcher notre corps, et du coup, on sentait que nos pieds... Enfin, qu'on se penchait. Et même dans l'immobilité, en fait, il y avait une sorte de danse. Et du coup, elle parlait de ça, de la méditation. Enfin, le corps qui danse, même s'il ne danse pas comme on pourrait le penser vraiment. Enfin, bref.
Oui, une certaine manière de mettre en mouvement le corps sans que ce soit perceptible, que ce soit forcément de la danse. C'est mais il y a quand même un mouvement.
La prise de conscience du corps dans l'espace.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Comme promis, après cette super interview, voilà, Julien, tu nous as préparé une petite chronique autour des Forces Vives qu'on a été voir lundi soir.
Les Forces Vives est un spectacle de la compagnie Animal Architect, mis en scène par Camille Dagen et Emma Depoix qui signe la scénographie. Sur 3h30 environ, les artistes déplient les pages de la vie de Simone de Beauvoir. Sa figure se démultiplie au fil du temps, incarnée par plusieurs actrices, dont Hélène Morelli, Marie Deporteur, Camille Dagen et Sarah Chaumette. Les spectateuristes sont conviés à traverser sa bibliographie, puisque le spectacle repose sur divers ouvrages autobiographiques comme Le deuxième sexe, Cahier de jeunesse, Mémoire d'une jeune fille rangée, La force de l'âge et La force des choses. On peut d'ailleurs voir ici un clin d'œil au titre du spectacle. La première partie se centre principalement sur son éducation et sa construction en tant que femme dans un foyer baigné de religion, où il est difficile de sortir du cadre imposé et de s'émanciper. On y voit une Simone prête à tout pour lire les pages d'ouvrages interdits par ses parents ou chantonner des chansons frivoles en cachette. Nous assistons également à l'immersion de la jeune adulte dans le monde des intellectuels entre Merleau-Ponty et Sartre. Cette première traversée de la vie de l'autrice, bien qu'un peu longue, nous transporte avec des airs de vaudeville dans le passé de l'écrivaine. Après une courte entracte, le spectacle reprend, mais le rideau ne s'ouvre pas. Les artistes sont prostrés devant le velours noir face au public. Dans une choralité mimétique d'Internet, les comédiens-comédiennes ouvrent des onglets, parcourent des articles, des commentaires Instagram et nous font même revivre des interviews d'époque sur la sortie du deuxième sexe. Ce moment clé du spectacle nous donne à voir le regard critique porté tantôt à l'époque, tantôt à notre ère sur Simone de Beauvoir. La controverse est soulignée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas question de déboulonner le combat de Simone de Beauvoir en minimisant son impact, mais de souligner certains faits. Le spectacle reste cependant très court et évasif sur le sujet, c'est pourquoi il est nécessaire à mon sens d'ouvrir une petite parenthèse pour vous en dire plus. On peut se demander pourquoi s'intéresser à la figure de Simone de Beauvoir en 2026 ? Comment se réapproprier une œuvre majeure pour le féminisme quand on sait par ailleurs que Simone de Beauvoir est une figure controversée, complice de pédocriminalité et coupable de discrimination lesbophobe à l'égard entre autres de Monique Wittig, grande figure féministe ? Comment mettre en avant une figure aussi importante pour le mouvement de libération des femmes et ses prises de position sur la guerre d'Algérie, tout en étant conscient et consciente des actes de l'autrice sous la complicité de Jean-Paul Sartre, qui vont à l'encontre de son engagement ? Les Forces Vives s'inspirent en particulier de « Mémoire d'une jeune fille rangée », un ouvrage qu'elle publie en 1958. En 1993, Bianca Lamblin, celle que Simone et Sartre surnommaient Louise Védrine dans leurs écrits épistolaires, publie « Mémoire d'une jeune fille dérangée ». Faisant directement écho au roman de Simone de Beauvoir, l'ancienne élève y relate son grooming subi par le couple d'intellectuels. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme « grooming », c'est tout simplement le fait de solliciter des enfants à des fins sexuelles, notamment avec un rapport d'ascendant quand on est un adulte et qu'on va voir des enfants, en l'occurrence ici des élèves. Dans l'ouvrage, Bianca Lamblin écrit « Tout en elle respirait l'énergie. L'intelligence de son regard, d'un bleu lumineux, nous frappa dès le début. À 16 ans, on est facilement ébloui. Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeune fille une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Celui qui était le plus laid, le plus sale, mais aussi le plus gentil et suprêmement intelligent, c'était Sartre. Je sus immédiatement qu'il était l'amour de sa vie. Entre nous, lui a-t-il dit, il s'agit d'un amour nécessaire. Il convient que nous connaissions des amours contingentes. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Cependant, il n'est pas question de dénigrer le deuxième sexe et toute la théorie féministe encore importante aujourd'hui développée par Simone de Beauvoir, mais bien de souligner des actes. Le but n'étant pas d'aller contre le mouvement féministe et les idées qu'elle a pu apporter, puisque dans le deuxième sexe, elle pose les bases d'une réflexion sur la liberté, l'aliénation et l'émancipation des femmes qui fait toujours écho à notre ère. Il faut ainsi prendre du recul au risque de glorifier une figure qui, de son vivant, a dépassé certaines limites. Après cette parenthèse, revenons sur le spectacle qui traverse tout de même 50 ans d'histoire, de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Algérie. Il est donc difficile de tout traiter dans les moindres détails. Durant la seconde partie de la représentation, les artistes s'attellent à La force des choses, un autre roman de Simone de Beauvoir, évoquant principalement la guerre d'Algérie. Le trouble autour du mot génocide, qui n'est pas sans faire écho à notre ère des années 2020, et notamment l'affaire Djamila Boupacha, est brillamment mise en lumière. On nous présente ainsi le déni et le refus d'une prise de conscience des faits à travers l'irrationalité de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, et de l'autre côté, les mots de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir sur les tortures infligées à la jeune femme. Cette même partie du spectacle souligne très justement le bouleversement politique et social que fut le passage à la Ve République. C'est sur ces mots que je terminerai ma chronique. Si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur le spectacle, le mieux c'est d'aller le voir. Vous trouverez par ailleurs une liste de documents à consulter sur Simone de Beauvoir si ça vous intéresse sur le site de Radio Campus Amiens. Et moi, personnellement, je vous recommande la lecture de « Mémoire d'une fille dérangée », l'ouvrage de Bianca Lamblin.
Merci Julien pour cette chronique, c'était super intéressant et comme tu l'as dit, tous les liens des articles seront mis en ligne dans celui de l'émission d'aujourd'hui. C'est le moment de passer à la suggestion littéraire, comme depuis le début de la semaine, on vous propose de découvrir une série de livres par les différentes associations qui étaient présentes dimanche à la Maison de la Culture d'Amiens. Et aujourd'hui, donc, on vous propose de découvrir celui d'Éloane, qui a choisi un livre qu'elle a autopublié.
Nous sommes avec Éloane de l'association Divergeor. Et Éloane, je vois que tu es venue avec un livre. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Salut. Oui, du coup, avec plaisir. Du coup, je suis venue avec un livre qui s'appelle « Jamais vous n'irez dans mes poches », du coup, qui est un recueil de poésie que j'ai écrit en 2024. Qui, du coup, donc un livre que moi j'ai écrit et qui est illustré avec un ami qui s'appelle Lisio Liagre, donc, qui est un illustrateur sur Amiens. Donc on est tous les deux amiénois, amiénoises. Et du coup, je vais vous parler un petit peu du livre, de son, enfin, qu'est-ce qu'il raconte et comment est-ce qu'il a été confectionné. Du coup, Jamais vous n'irez dans mes poches, donc est un recueil de poésie qui raconte en fait un parcours de transition de genre autour d'une thématique du coup qui est celle des poches, du coup un peu du vêtement de manière générale, mais du coup qui reprend en fait cette idée de cacher en fait des textes ou des poèmes dont on a un petit peu honte ou des choses comme ça dans nos poches. Et donc en fait à travers donc cette idée du coup du vêtement et de la poche et de cette accumulation, on va suivre du coup des textes qui racontent du coup comment est-ce que le fait d'écrire et à force en fait l'accumulation de textes et cette envie d'écrire va petit à petit amener à s'interroger en fait sur son genre et du coup entamer une transition par en fait pour libérer l'écriture entre, en l'occurrence de moi, parce que du coup je raconte mon parcours. Donc c'est comment le fait d'écrire de manière plus en plus abondante et ce besoin d'écrire va aboutir nécessairement à une transition de genre pour pouvoir exprimer encore plus du coup cette écriture.
Et justement dans cet ouvrage, il n'y a pas seulement du texte, il y a aussi des images comme vous l'avez précisé. Et comment en fait ces images et ce texte dialoguent? Est-ce que les dessins ont été faits avant? Est-ce que l'écriture était faite avant? Enfin, est-ce que vous avez écrit avant? Ou plutôt est-ce que c'était un dialogue entre images et texte? Et comment parfois les images peuvent traduire au-delà des mots ce que vous essayez de transmettre dans ce texte?
Initialement du coup le texte moi je l'avais écrit donc toute seule dans mon coin, en l'occurrence au début de mon parcours, je l'avais fini mais je savais pas quoi en faire, j'avais jamais trop osé me dire en fait que je pouvais l'envoyer en maison d'édition ou des choses comme ça. Je le considérais pas, donc je l'avais mis de côté. Ce que j'ai pas précisé, mais du coup c'est un livre qui a été auto-édité. Donc on a fait ça à deux avec mon ami. Et en fait, c'est lui qui est venu me contacter parce que je publiais des textes sur mon compte Insta. Il aimait bien ce que je faisais. Et du coup, il m'a dit « Hey, ça te dit, on fait une collaboration pour quelques petits posts ?» Et moi, je lui ai dit « Bah, si tu veux, j'ai 120 pages de poèmes. Est-ce que tu veux qu'on travaille autour de ça ?» Et donc, on a commencé à travailler autour de ça. Donc, on a vite fait une sélection, en fait, des textes qui, on trouvait, pouvaient être illustrés. Et les illustrations ont été faites autour de cette idée. En fait, chaque illustration représente, en fait, une créature qui du coup vient illustrer en fait le poème, parce qu'en fait l'idée du poème est très personnifiée dans les textes et c'est presque comme un personnage en lui-même qui du coup se manifeste de plein de manières différentes. Et donc on a eu cette idée de vouloir représenter le poème en fait du coup sous forme de petites créatures toutes plus ou moins différentes, avec systématiquement une poche de représenter au sein de l'illustration pour du coup ramener à la thématique un peu centrale de la poche et du vêtement dans le livre. Et donc du coup ça se fait petit à petit dans cet ordre là jusqu'à qu'on arrive, je crois qu'il y a 16 ou 18 illustrations pour 38 poèmes. Donc c'est un assez gros bébé parce qu'il y a quand même 120 pages au total. Et du coup voilà.
Dans ce qui sort de ses poches, il y a ces créatures qui en sortent. Et est-ce que ça vient pas aussi défier toute cette expression de freak qu'on a souvent utilisée de manière péjorative en fait sur les personnes trans?
Oui, complètement. Enfin du coup dans les illustrations, il y a tout un travail justement pour représenter ces petites créatures en fait avec des espèces de marqueurs de genre un peu bizarres. Enfin par exemple du coup mon ami Lizo aime beaucoup faire des espèces de grands cils, forme de liner très exagérés ou avec des ongles très pointus, un petit peu dans l'univers un peu du drag, des trucs très exagérés mais aussi de manière un peu plus soft ou masculine. Enfin c'est assez varié. Il y a vraiment tout type de créatures, ça va des kangourous à des pots de fleurs, à des oiseaux, à des anges qui tombent, à des chronomètres aussi. Et du coup il y a toujours une volonté de faire sortir ce côté un petit peu fric, parce que justement l'idée de sortir de l'intimité de la poche, c'est aussi du coup une espèce de liberté de soi-même, j'accepte que je vais être bizarre, que je vais être considéré comme bizarre, et du coup ça va se manifester de différentes manières, donc à la fois dans les textes, dans les écrits, parce qu'il y a aussi tout un travail du coup autour des textes qui sont écrits avec une typo au neutre, donc qui du coup a été faite par un collectif qui s'appelle Bye Bye Binary en l'occurrence, qui propose tout un tas de typographies non genrées. Donc il y a aussi toute cette application en fait et cette réflexion autour du langage pour du coup avoir des poèmes du coup un peu fric, pour prendre ce que tu disais, mais du coup relié à des illustrations qui elles-mêmes sont aussi un peu fric. Donc la thématique de la transidentité, elle n'est pas que narrative, elle se retrouve aussi vraiment dans la forme en fait des textes et des illustrations, et ça vient vraiment du coup dialoguer entre les deux pour raconter un petit peu cette histoire, parce qu'il y a aussi tout un espèce de parcours en fait, d'affirmation de soi au fur et à mesure des textes.
Merci. Une dernière question, justement, où est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage ?
Alors malheureusement j'ai vendu, enfin du coup je l'ai auto-édité en 100 exemplaires qui sont, enfin ont tous été vendus maintenant, mais il y en a un du coup qui est disponible à la bibliothèque de la Citadelle, bibliothèque universitaire en l'occurrence, donc du coup qui est en libre accès sur place mais également empruntable si on, vous êtes inscrit, inscrite en tant qu'étudiant, étudiante ou pas. Et là peut-être il y a des réflexions sur le fait d'être réédité parce que moi-même du coup je commence à envoyer un manuscrit pour un second recueil de poésie, mais du coup la question se pose de peut-être rééditer l'exemplaire parce qu'il y a toujours des, je vais à plein de gens, enfin, des gens qui aimeraient bien. Là, typiquement, on est en stand et le fait d'en parler, ça motive des gens à vouloir le lire. Donc la question se pose. Mais en tout cas, actuellement, le plus simple, c'est d'aller sur Amiens, bibliothèque de la Citadelle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et voilà, Fréquence Féministe touche à sa fin pour cette troisième émission. Vous avez quelque chose à dire avant que je parle de l'agenda culturel ?
Fréquence. Le running gag.
Je sais que tu as été beaucoup touchée par l'interview avec Aliénor.
Oui, c'était très très intéressant de pouvoir être au plus proche de sa réflexion, puisqu'on a eu cette interview mardi matin qui a été très intéressant et que vous pouvez réécouter en replay sur Radio Campus Amiens. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'écouter. Et justement, cette performance L'Océan, elle est visible cet après-midi à 15h, mais également à 19h30. Et je vous invite franchement à aller la voir parce que c'est une invitation à parcourir notre perception de l'espace, de nos sensations et également de développer notre toucher. C'est interactif et c'est aussi, si vous avez des enfants et notamment des bébés, c'est un spectacle qui est, dans lequel on convie les plus jeunes, en fait, tout simplement.
Et tu l'as dit, donc c'est à 15h et à 19h30. Et si vous nous réécoutez à 18h30, vous pourrez toujours aller voir la séance du soir. Il y aura également Mud in Finland à 20h au Cirque Jules Verne. Nage libre à 19h30, c'est une pièce de théâtre qui se joue à la Comédie de Picardie. Ça, c'est pour ce soir. Et pour demain, il y a encore plein de choses pour découvrir le Festival Féministe Futur. Il y a à 12h15 la séance Encore et tous les jours, qui est un programme de court-métrage d'animation présenté par Jeanne Poulain et Elena Smart. Vous retrouvez encore une fois Made in Finland qui est rejoué à 20h toujours au Cirque Jules Verne. Nage libre est encore joué aussi à la Comédie de Picardie à 20h30. Ça vous permet du coup, si vous avez raté les premières représentations de ce soir, d'aller les voir finalement ce jeudi. Et on termine avec un spectacle de danse au Grand Théâtre à la Maison de la Culture qui s'appelle Black Lights, où on retrouve Mathilde Monnier. Ça va dénoncer le sexisme ordinaire. C'est vraiment une lutte par le mouvement. C'est plein de sororité, c'est plein de rage incendiaire. Et on vous invite du coup à aller voir ça. Et vous aurez la chance aussi d'écouter une petite chronique vendredi sur Black Lights. C'est déjà la fin de Fréquence Féministe, épisode 3. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, l'épisode 4.
Déjà la fin, quasiment.
Ça va, Léo, pas trop en burn-out ?
Non, ça va, petit à petit, on se met quand même dans le bain du festival et j'ai quand même hâte aussi de découvrir d'autres choses. Je vous prépare d'ailleurs une chronique, un petit happening, vendredi sur la pièce de théâtre, en tout cas de Nage libre. Donc, vous pourrez découvrir ce vendredi.
On a très hâte de voir ta performance, ton happening.
On s'attend à quelque chose d'incroyable, hein. On te prévient tout de suite, hein.
Oui, ce sera quelque chose d'incroyable, mais surtout quelque chose de, je l'espère en tout cas, des mouvements. J'irai le voir, donc le spectacle
jeudi, à la séance de jeudi
soir, exactement.
Eh ben c'est parfait. Sur ce, moi je vous dis à demain.
Eh ben oui, parce que Fréquence Féministe.
Fréquence Féministe.
C'est tous les jours.
Et je pense qu'on peut terminer sur
Fréquence Féministe.
À demain.
À demain.
Depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange. Tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes.
Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc, mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Fréquence féministe.
Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes?